La première cause des arrêts maladie de longue durée, c'est la santé mentale. Anxiété, dépression, burn-out, ces troubles explosent chez les jeunes, les cadres. Et d'après le généraliste Michaël Rochois, qui exerce à Outreau dans le Pas-de-Calais, ce sont ces arrêts maladie qui sont visés par la limite d'un mois pour un premier arrêt, renouvelable jusqu'à 2 mois maximum. Et après, eh bien, il faudra faire une demande justifiée par l'état du patient.
On se doute bien que les dérogations vont être plus simples lorsqu'on va dire le patient a un cancer, il fait de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Donc oui, effectivement, son arrêt va durer 6 mois au moins. Ou pour une fracture ouverte où le patient est immobilisé 3 mois, bon ben voilà, ça va être facile. Mais certaines situations vont être plus complexes. Tout ce qui est santé mentale, où on va nous dire qu'il faut revoir le patient plus fréquemment. Donc ça occupe des consultations, ça occupe du temps médical indûment.
Avec cette mesure, chaque prolongation de l'arrêt maladie imposera des consultations en plus. Et donc du temps médical perdu pour ce représentant du Collège de la médecine générale qui défend justement pour gagner du temps l'autodéclaration des arrêts de travail très courts et des congés pour enfants malades, comme le font la plupart de nos voisins européens.
Anne-Laure Danier, merci beaucoup. Bonjour Frédéric Bizard.
Bonjour, Augustin Rivet.
Professeur d'économie à l'ESCP Business School et puis président fondateur de l'Institut Santé. Ça peut faire économiser beaucoup d'argent, ce type de mesure ?
Écoutez, le gouvernement n'a pas chiffré, donc je pense qu'il est plutôt prudent et qu'il a du mal à la chiffrer. On est quand même sur du bricolage, sur un sujet qui est extrêmement sérieux. Pourquoi du bricolage ? Parce que d'abord, et ça a été très bien dit dans votre reportage et par votre collègue, bon, on demande aux médecins, en gros, d'être un petit peu plus vigilants et d'avoir un contrôle médical un peu plus serré. Bon, si c'était pas le cas, moi, je suis pas choqué par le fait qu'on le demande. Mais que font les 7500 médecins conseils de l'assurance maladie dont une des missions premières, c'est justement de s'assurer qu'il y ait de bonnes prescriptions et de bons contrôles. Donc, on se donne un peu bonne conscience par une espèce de pis-aller technocratique en se disant, bon, on va réglementer davantage la prescription, puisque c'est une prescription avec tout le secret médical qui va. Mais très honnêtement, je pense qu'il faut en attendre très, très peu de résultats d'économie. L'essentiel des mesures à prendre est ailleurs, c'est-à-dire à s'attaquer aux causes profondes. Ça a été dit dans votre reportage, qui sont de la morbidité croissante, des infections de longue durée, de la santé mentale, des troubles musculo-squelettiques et une absence de santé publique dans ce pays.
Et s'il y a une augmentation des arrêts de travail ces dernières années, ce n'est pas forcément parce qu'on les prescrit plus facilement qu'avant, c'est parce qu'il y a une dégradation générale de la santé des Français, il faut se dire ça ?
Absolument, votre question est la question centrale à laquelle il faut répondre. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a une accélération de la hausse ? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'abus ? Il n'y a pas de raison que la nouvelle génération fasse plus d'abus que la génération précédente. Donc les abus, il faut lutter contre, il faut les sanctionner, mais on voit bien que ce n'est pas le levier principal. Le levier principal, il est largement connu. Vous savez qu'aujourd'hui, on a 14 millions de Français qui ont une ou plusieurs affections de longue durée. Il y en a 400 000 de plus, c'est-à-dire 20% de la population. C'était 5% de la population il y a 20 ans. Donc, on voit bien qu'on a un vieillissement en mauvaise santé. Et dans ces 20%, hein, je vous rappelle qu'il y a quand même 4 millions de Français, c'est-à-dire 20% de ces 14 millions, 25% qui sont actifs. Donc vous avez 4 millions de Français qui sont actifs et qui ont un cancer, qui ont une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale. Donc c'est pas très étonnant. On paye ce vieillissement en mauvaise santé. Ça a été dit par votre collègue, il y a une dégradation de la santé mentale, notamment chez les jeunes. Enfin, c'est pas très étonnant qu'on la retrouve de l'arrêt de travail.
Est-ce qu'il y a aussi une libération de la parole qui fait qu'on demande peut-être davantage à son médecin de diagnostiquer ce type de maladie et donc, eh bien, fatalement, ça amène à davantage d'arrêt de travail ?
Alors, ça, c'est lié à la forte hausse des affections de longue durée, parce qu'avant, et c'est plutôt un progrès, c'est grâce au progrès médical, hein, si vous avez aussi une hausse des affections de longue durée, c'est-à-dire que vous vivez plus longtemps avec un cancer, avec des maladies graves. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Mais la contrepartie, c'est que vous avez une santé qui est plus fragile. Même si vous n'en mourrez pas, vous avez une santé qui est plus fragile. Donc vous avez raison, il y a probablement, avec une approche très humaniste qu'ont les médecins, une écoute plus importante et qui peut se traduire par un peu je ne sais pas si c'est de la facilité ou pas, mais qui peuvent augmenter. Bon, ça, on peut l'envisager. Mais encore une fois, les causes réelles, c'est qu'on a des parcours très désorganisés de ces patients chroniques. On n'a pas de contrat thérapeutique que l'on met. C'est un parcours du combattant, encore plus pour la partie défavorisée de la population. Il faut structurer ces parcours. On a eu des plans cancer qui ont fait plein de propositions. Nous avons fait des propositions. Vous voyez, je trouve assez irresponsable ce qui s'est passé devant la REF, juste rapidement. patron de le MEDEF, où on laisse penser aux chefs d'entreprise que c'est juste un problème de ces salauds de Français qui abusent.
Vous parlez du discours d'Édouard Philippe sur l'open bar des arrêts de travail ?
Bon, oui, parce que, si vous voulez, c'était justement l'occasion de dire nous devons changer notre système de santé, et dans ce futur système de santé, nous devons y inclure les entreprises, parce qu'on ne va pas faire que du soin, c'est pas aux entreprises de s'occuper du soin, mais on va faire du maintien en bonne santé, on va faire de la prévention. Je rappelle que ce pays est le seul pays qui n'a pas augmenté ses dépenses de prévention sur les 10 dernières années, on est à 2,3%, là où la plupart des autres sont à plus de 5%. Donc ça aussi, on le paye, vous voyez, et malheureusement, on n'a pas l'air de vouloir changer notre fusil d'épaule, et pourtant, il faudrait le faire si on veut voir durablement baisser ces dépenses d'arrêt de travail qui coûtent près de 100 milliards d'euros au pays, hein, en termes de, c'est pas, on parle des 12 milliards, mais ça coûte près de 100 milliards en termes de perte de productivité et de désorganisation des entreprises.
Et
c'est
avec
colossal.
Avec ces reconsultations au bout d'un mois, il y a un risque d'inciter à retourner travailler alors qu'on n'y est pas forcément prêt. Pour les maladies mentales, c'est pas toujours évident de s'auto-évaluer. Est-ce que ça, on a une idée du surcoût de soins ensuite que ça peut engendrer ?
Ouais, vous avez du surcoût des consultations, ça a été dit. Encore une fois, on pense que les médecins ne font pas bien leur travail, donc on va leur dire, il faut que vous revoyez vos patients sur les 30. Normalement, enfin, c'est vraiment le cœur de la mission du médecin, de savoir à quelle régularité, encore une fois, si certains médecins sont défaillants, il y a un contrôle qui est fait par la CNAM. C'est ça que je trouve un peu, c'est vraiment des mesures de bonne conscience qui n'ont aucune base. On n'a aucune base pour montrer qu'il y a des arrêts de longue durée qui sont injustifiés, ou que ça serait la source de la base. Il y a aussi, j'en profite pour le dire, il y a un problème de manque d'études de la part de la CNAM, parce qu'on est quand même dans un brouillard profond, d'aller vraiment dans le détail du type d'arrêt de travail qui peut y avoir, les raisons de cet arrêt de travail, et d'essayer d'améliorer en travaillant sur cette évolution-là. On est vraiment dans le brouillard pour un sujet qui est extrêmement sérieux, mais en tout cas, ce n'est pas cette mesure qui va changer quoi que ce soit, malheureusement, sur l'évolution des arrêts de travail.
Un dernier mot, parce qu'on entendait dans le reportage que certains pays voisins ont mis en place des autoprescriptions d'arrêt maladie sur des durées courtes, donc la dynamique inverse. Il y a eu des pertes économiques là où ça a été mis en place ?
Non, c'est plutôt, ça a plutôt, notamment au Portugal récemment, et ça a plutôt de bons résultats. De toute façon, on sait qu'il faut aller vers une auto-responsabilisation sur les arrêts courts qui sont quand même quasiment pas pris en charge. Hein. Il faut certainement toiletter notre système parce qu'il est très inégalitaire en fonction du type d'entreprise dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans le public, dans le privé, vous n'avez pas les mêmes règles. Rien ne justifie ça. Donc là, si le gouvernement voulait faire de la réglementation, il pourrait remettre de l'ordre, à savoir que ça soit les mêmes règles pour tout le monde et des règles lisibles. Et à partir où vous avez des règles lisibles, ben là, vous avez l'effet désincitatif de prendre des arrêts de travail non justifiés, et lorsque vous avez des arrêts de travail justifiés, vous les prenez. Donc, je pense qu'il faut aller vers ce système-là. En effet, ça, c'est une reconception du système proprement dit et de son type de financement. Il faut responsabiliser les médecins, mais il faut responsabiliser les entreprises, il faut responsabiliser les salariés. Et aujourd'hui, vous n'avez pas grand monde de responsabiliser dans le système actuel.
Merci Frédéric Bizarre, très sceptique donc sur cette réforme aujourd'hui, professeur d'économie à l'ESCP Business School et président fondateur de l'Institut Santé.